Oublier les temps, c'est le titre de la chanson de Maria Taylor et qui est aussi le générique de l'émission de Claire Elisabeth. En mode solo, on l'écoute. Aujourd'hui, eh bien, nous abordons le thème du printemps, une renaissance, c'est peut-être une blague, Claire-Elisabeth.
J'ai l'impression, oui, effectivement. Oui.
C'est l'instant bien-être, épisode 5 peut-être déjà, ça passe bien vite.
Ça passe très vite, oui, tout à fait.
Voilà, le printemps, une renaissance, et il y a un challenge aussi, bien sûr, à la clé, et tu nous en diras un peu plus d'ici quelques instants. Alors, c'est à toi, les micros sont ouverts, on t'écoute studieusement.
Eh bien, merci beaucoup. J'espère que vous avez tous votre petit bloc-notes pour prendre des notes, justement. Ça peut être intéressant. Alors, bah oui, effectivement, j'ai été un peu prise de court aussi. L'inspiration du printemps qui s'est manifestée au mois de mars avec, effectivement, les bonnes températures. Et puis, bon, bah là, actuellement, avec un petit coup de rafraîchissement, du coup, on n'y est pas vraiment. Alors, toutes mes excuses, mais peut-être que le fait d'en parler, ça va l'inviter à revenir.
Exact.
On va rester un petit peu dans cette optique-là pour se motiver et être optimiste. Alors effectivement, l'idée pour ce mois-ci, c'était d'aborder donc l'idée du printemps, qui est un peu synonyme de renaissance en fait. Alors pour ça, je voulais vous inviter en fait à comprendre l'expression de faire le fameux nettoyage de printemps, puisque ça va être l'idée du challenge, puisque je vais vous solliciter à vous engager à entreprendre un véritable nettoyage de printemps à la fois dans votre intérieur, mais aussi dans votre propre vie. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que cette expression « faire le nettoyage de printemps » ? En fait, c'est une expression qui décrit le fait de faire du nettoyage en profondeur. On va aller rechercher un petit peu tout ce qui est enfoui, on va aller le dépoussiérer, on va le remettre un petit peu à la fraîcheur de la nouveauté du temps. Un petit peu comme après l'hiver, les fleurs qui vont de nouveau sortir dans les jardins, le soleil qui est un petit peu plus chaud, ce qui donne envie de tout nettoyer aussi pour nous et de mettre en avant tout ce qui est vêtements frais, n'est-ce pas, pour l'été, avec les couleurs, tout ce qui est un petit peu plus léger, flottant. C'est une pratique aussi qui est très ancestrale. En fait, à la base, cette expression puise ses origines dans le monde agricole, quand il était nécessaire de vider des caves et des greniers pour faire de la place aux nouvelles récoltes des saisons prochaines.
D'accord, ok. Les nouvelles saisons, il y a des symptômes du renouveau également ?
Exactement. Alors nous, on est vraiment pro les humains pour avoir des symptômes d'un petit peu tout et n'importe quoi. Et effectivement, il y a dans les faits l'idée déjà générale du fait de « il commence à refaire beau, alors j'ai envie d'un petit peu plus sortir, j'ai envie d'un petit peu plus bouger, j'ai envie de nouveautés, d'aération aussi, hein, ne serait-ce qu'aussi l'idée d'ouvrir chez soi. On a tendance à ouvrir les grandes baies vitrées ou alors d'aller plus dans le jardin, etc. À la fin de l'hiver, en général, on se languit toujours un petit peu les journées étirées, avec le soleil qui puisse un petit peu réchauffer quelques minutes de plus. On est très, très à l'attention des beaux jours qui s'annoncent, les vacances qu'on va planifier aussi, puisque l'été s'annonce. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire, à voir, à envisager, beaucoup de projets. On a également cette sensation, je dirais, de se recharger les batteries avec le soleil. On marche beaucoup à ça, hein. Beaucoup de personnes pendant l'automne ont tendance à avoir un petit coup de moins bien au niveau du moral. Par contre, en été, bizarrement, on est tous assez optimistes et assez tranquillou, on va dire aussi, dans notre état d'être, dans notre comportement. Et donc, c'est vrai que c'est un élan général de positivité qui se manifeste par cette envie de changement, de propreté aussi, et de nouveauté. Ça, c'est très important. Donc, avec le matériel, comme je vous le disais, le logement y passe, la voiture aussi, hein. En général, on aspire tous les graviers, toutes les feuilles d'automne qu'on a pu ramasser durant l'hiver. On commence à se balader dans les pépinières aussi pour regarder un petit peu quel genre de plantes on peut caler dans le jardin, sur la terrasse, les géraniums. Qu'est-ce qu'on a tendance à faire d'autre aussi ? Eh bien, dans les relations, on a tendance à bouger plus, à de nouveau sortir un petit peu de cette hibernation. Hein. Peut-être que c'est propre à ici, le fait d'être un peu comme les marmottes, mais finalement, je pense qu'on est tous pareils. En hiver, on se languit qu'une chose à la fin de la journée, c'est rentrer chez soi, c'est aller prendre son mug de chocolat chaud sous la couverture devant la télé et puis s'isoler un petit peu. Tandis qu'en été, on a tendance à beaucoup plus s'ouvrir au monde.
Absolument, oui, c'est vrai. Et des gens qui commencent à lézarder là, aux terrasses de café aussi.
Comme, ah oui.
D'où le verbe lézarder, comme des lézards là, qui prennent le soleil.
Exactement.
C'est quoi, de la vitamine E peut-être, non, le soleil?
Alors c'est beaucoup de vitamine D aussi.
D.
Oui, et alors ça par contre c'est vrai qu'on en a beaucoup besoin. Hein. Donc quand on est en manque de soleil, en plein hiver, vous avez des ampoules que vous pouvez prendre pour un petit peu recharger, parce que c'est vrai que le corps en a besoin, tant pour physiquement mais aussi pour moralement, hein, ça c'est certain.
Est-ce que, j'ai une question du coup, est-ce que la vitamine D joue sur le moral aussi des gens pendant l'hiver? Est-ce que si on en manque, du coup...
Ça a forcément des vertus quand on en prend, effectivement. Ça a tendance à rebooster un petit peu comme les oméga aussi. Ça a tendance à rebooster, ça va vous requinquer, ça va vous recharger en fait. Et donc, inévitablement, ça a des effets aussi sur le moral.
Ok, bon, à savoir ça.
Exactement.
À noter pour l'hiver prochain,
je vous
cure de vitamine D.
Donc, profitez pour fête. Pour faire votre photosynthèse, finalement.
Oui, c'est un petit peu ça, oui. Alors là, on retourne à l'école, hein, par contre. Alors moi, je suis plus littéraire, donc la photosynthèse, je vous la laisse.
On continue.
Oui, donc bah, tout cela contribue donc grandement à notre envie et notre sentiment de légèreté, hein, parce que quand on a tendance à être beaucoup plus relax, beaucoup plus positif, forcément on voit la vie beaucoup plus du bon côté, on a tendance à faire des projets qui nous portent aussi, on a tendance à faire des choses qui nous donnent envie, et forcément on se sent comme dans une envolée en fait finalement, on se sent poussé dans cet élan-là.
Très bien, on va faire une pause musicale, première pause musicale, en plein cœur de la matinale. Je vous le rappelle, vous êtes sur Fréquence Mistral et c'est votre émission spéciale Le Printemps, une renaissance par Claire Elisabeth. Et on écoute, voilà, un petit bruitage qui va bien avec ta thématique. C'est l'instant bien-être. Et le bien-être, c'est aussi auditif. À tout de suite.
Mm-hmm.
suite de la matinale sur Fréquence Mistral avec Claire Elisabeth. L'instant bien-être, et on aborde la thématique du printemps. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez raté la première partie, mais il y a une seconde, voire troisième partie. Et cette seconde partie, eh bien, si on s'y mettait plus sérieusement, mais à quoi, Claire Elisabeth ?
Eh bien, enfin, au grand nettoyage de printemps.
Carrément.
Là, on est beaucoup plus dans le côté, on va dire, concret, pratique de la chose. Car bien souvent, on a les envies de s'y mettre, de faire les choses. On a beaucoup de projets, mais au bout d'un moment, on s'essouffle. Donc l'idée, c'est comment réussir à entreprendre efficacement et durablement le grand nettoyage de printemps, à la fois dans son logement, dans son intérieur et dans sa propre vie.
Je suppose que tu as des réponses à cette question.
Mais bien sûr, mon cher Vincent et ma chère Lily. Alors, on va commencer d'abord par ce qu'on connaît le plus et ce qui est peut-être le plus évident, on va dire, à travailler, l'aspect matériel, donc le chez-soi. J'ai envie de vous faire une petite citation d'Alberto Heiger, qui est un psychanalyste et auteur de L'inconscient de la maison, qui nous dit « Montre-moi ta maison et je te dirai qui tu es ». Alors, c'est une bien grande phrase qui signifie un petit peu, en fait, que la maison peut être une véritable photographie, en fait, de notre inconscient et de ce qui se passe dans la tête des habitants de cette maison. Donc, c'est-à-dire que, pour faire un petit peu, pour schématiser, on va dire, une maison vide aura tendance à être le témoin d'un certain manque chez les habitants de cette maison, comme une absence de lien avec ou au sein de la famille. Ça peut être aussi une vie imaginaire qui est assez affaibli, un épuisement aussi psychologique, voire même des fois des symptômes qui sont dépressifs et qui font perdre l'envie de construire à ses habitants de cette maison. Et puis on a, à contrario, la fameuse maison assez encombrée, assez désordonnée, qui, elle, pourra un petit peu symboliser tout ce qui est perturbation mentale, que ce soit plutôt ponctuelle ou continuelle. Alors, je ne parle pas de troubles psychiatriques, ne vous inquiétez pas, ne vous affolez pas, c'est normal qu'on ait tous un petit peu de bazar chez soi. Mais l'idée, c'est que, finalement, quand on est dans une période de conflit dans sa maison, que ce soit avec les habitants de la maison ou même aussi du coup avec des problèmes au travail, etc., on aura tendance à avoir un petit peu de désordre dans la maison, comme si on ne prenait pas le temps de mettre au clair les choses, en fait, ni dans sa maison, ni dans son esprit. Donc c'est un petit peu cet effet de calque qu'on peut voir à travers la maison et l'état d'esprit dans lequel l'habitant de cette maison se trouve.
C'est un peu flou, en fait, c'est ça ? Mentalement ?
Oui, tout à fait. La personne n'arrive pas forcément à mettre les choses au clair, n'arrive pas à se décider. Du coup, toute cette sensation d'avoir pas mal de papiers sortis en même temps, désordonnés, ça reflète. Voilà, c'est vraiment cette idée de refléter ce flou, ce désordre, je cherchais le terme, ce désordre mental est reflété, parce qu'il faut bien que le corps évacue un petit peu, comme vous connaissez certainement le mal-à-dit pour la maladie, les mots du corps qui traduisent les mots de l'esprit, finalement, l'état de la maison traduit aussi ce qui se passe dans notre tête. Au plus vous êtes clair et ordonné dans votre tête, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez, au plus vous serez assez organisé, assez rangé dans votre maison. Par contre, si vous avez tendance à être complètement perdu dans votre vie personnelle ou professionnelle, il y a de grandes chances que votre maison soit un petit peu en pagaille, on va dire.
L'idéal serait d'avoir un juste équilibre entre les deux, la maison vide et la désordonnée, en fait.
Oui, tout à fait. Mais surtout qu'après, il y a certains, bien sûr, certaines personnes qu'on peut qualifier d'exceptions qui confirment la règle, avec des personnes qui s'y retrouvent exclusivement dans un désordre qu'ils appellent organisé. Parce que ça leur permet de donner cette sensation de picorer des informations, qu'ils ont accès à tout très facilement, de manière tout à fait directe. Donc, du coup, c'est plus facile pour eux. Donc, après, c'est des règles générales que je vous dis, mais bien évidemment, après, chacun a sa propre manière de le vivre.
Oui, j'avais une question. J'ai souvent remarqué, enfin pas souvent, mais de temps en temps, chez des amis ou la famille, qu'il n'y avait pas de décoration du tout dans leur appartement ou maison, qui mettaient du temps. Enfin, certaines personnes mettent du temps à décorer leur maison. Est-ce qu'il y a une signification ?
Alors, il y en a plusieurs. Donc, la première, ça va être le plus flagrant, je dirais. Ça va être le décalage pour le temps de se sentir chez soi. On n'ose pas s'imprégner des murs de la maison parce que finalement, on quitte quelque chose dans lequel on a précédemment vécu, donc on a précédemment construit des souvenirs, on a quelque chose de concret, on va dire, on sait qu'il s'est passé certes peut-être des mauvaises choses, mais aussi des bonnes choses, donc du coup on est attaché à ce lieu, et quand on va dans un nouveau, c'est pour ça que les déménagements sont souvent assez difficiles à vivre, et bien du coup on a du temps pour ce... il nous faut du temps en tout cas.
Pour s'approprier
exactement,
ouais,
et
la
prendre
nouvelle maison.
Ses marques, ouais. Et du coup s'installer, et puis prouver que bah, finalement si, c'est une continuité. Et puis par contre, il y a certaines personnes, c'est pas forcément lié à un déménagement, mais ça peut être cette absence justement de montrer l'affectif. Ça peut être une sorte de carapace aussi. Je ne montre pas mon intimité parce que je ne veux pas qu'on y ait accès.
D'accord. Ah oui. Comme quoi l'inconscient... Hein.
Ah oui, ça c'est sûr. Il nous parle de beaucoup de choses, l'inconscient.
Exactement.
C'est très intéressant.
Oui.
Toute autre chose, on passe au challenge bien-être, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Donc le challenge bien-être, ça va être comment faire pour entreprendre efficacement et durablement un grand nettoyage de printemps, aussi bien chez soi que dans sa propre vie. Et donc pour continuer avec le fameux chez soi, moi je vous recommande un bouquin. Je sais pas si vous le connaissez, c'est La magie du rangement de Marie Kondo, qui est plus communément, enfin, qui a été entendue en tout cas, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. Ça va être la méthode KonMari en fait. Je sais pas si ça vous parle, c'est une technique de rangement.
Non, du tout. Moi je connaissais un terme chinois ou japonais, le feng shui, mais...
Ah oui, ça va être plus pour réussir à organiser, du coup, l'intérieur de chez soi, okay. Harmoniser, faire en sorte que, bah voilà, faut mettre la plante à tel endroit, plutôt la cuisine située de tel côté, etc. Ça va être plus dans l'emplacement, on va dire, de la maison, les couleurs aussi à utiliser pour, au salon, aspirer à de la tranquillité, dans un bureau, aspirer à de l'inspiration, justement. Et par contre, dans ce bouquin-là, ça va être plus... Très bien, j'ai cette masse de boulot à faire, cette masse de désordre à ranger. Comment je m'y prends ? Et ça va être l'occasion de faire du tri pour ranger.
Ok, intéressant.
KonMari avec un K en fait.
Oui, tout à fait, parce que c'est la première partie de son nom de famille qui s'appelle Kondo, c'est Marie Kondo, K-O-N-D-O, et ça s'appelle La magie du rangement, vous pouvez le trouver vraiment partout, à Leclerc aussi, l'espace culturel, dans les librairies, sur internet, enfin voilà, faut pas hésiter, vous le trouvez très facilement, c'est un petit livre de poche qui se lit très très bien, parce qu'il est très bien expliqué, donc je vais un petit peu vous parler de qu'est-ce qu'on y retrouve finalement dans ce bouquin. J'ai envie de vous dire qu'il est idéal parce qu'il vous guide dans l'art du tri et du rangement. Il vous permet de faire le point efficacement sur tous les objets que l'on garde ou dont on se sépare, ce qui souvent pose problème. Et s'ils sont gardés, la règle primordiale qu'elle nous explique, cette auteure, ça va être de lui attribuer une place. C'est super important. Donc l'idée, hein, après je vous laisserai bien évidemment le découvrir de votre côté par la lecture, c'est de rassembler des objets d'une même catégorie dans un seul et même endroit et de faire le tri de tous ces objets, en se posant une question indispensable, est-ce que cet objet me procure du plaisir ? Est-ce qu'il me fait plaisir ? Est-ce qu'il me procure de la joie ? Est-ce qu'il m'est utile ? Si oui, je le garde et je choisis une place, et sinon, basta. Il est très important aussi de réussir à faire le tri et à jeter tous les objets qui sont détériorés, qui ne fonctionnent plus, et qu'on dit « mais oui, mais il faut que je le répare ». Et puis en fait, ça fait 3 ans qu'il est dans le placard et qu'on ne répare pas. Et si ça fait 3 ans qu'il est dans le placard, pourquoi est-ce qu'on le réparerait maintenant finalement ? Donc c'est un petit peu ça, l'idée dans ce livre en fait, est de réussir à attribuer après une place pour chaque chose pour que finalement on se rende compte de bah, « si je ne trouve pas de place, c'est que finalement cet objet ne m'est pas si utile que ça ». Et il y a une petite astuce pour tous les acheteurs compulsifs, on va dire, un petit conseil. Lorsque vous avez tendance à vouloir acquérir un nouvel objet, « Ah oui, ça, il me le faut absolument, c'est trop bien, ça fera joli. » Oui, ça fera joli, mais est-ce que vous avez pensé à la place que vous allez lui attribuer ? Si vous n'arrivez pas à en trouver une dans votre maison, c'est que ce n'est pas une nécessité de l'avoir. Vous n'arriverez pas à le caler, il va rester dans un coin et du coup, ça va servir à rien.
Un objet en particulier de décoration ou ça fonctionne aussi pour les vêtements, par exemple ?
Absolument. Alors, l'idée, c'est de commencer justement par les vêtements. Pourquoi ? Parce que, normalement, on a moins de valeur sentimentale avec les vêtements. Donc, après, la grande question hein, que tout le monde, surtout les dames, je dirais, ont tendance à, à vivre...
Je vois pas pourquoi du tout, non.
Comment ça, on ne se sent pas concernée ?
Non, moi oui, j'ai une centaine d'escarpins dans mon dressing.
Toi ?
Bah oui.
Waouh !
Ok.
Ah, j'ai peut-être
ça
dû... j'ai révélé quelque chose peut-être que je n'aurais pas dû.
Oui, tout à fait. Hein. Alors là, on peut y travailler. Il n'y a pas de souci. On va se voir aussi en dehors. Mais effectivement, toute cette notion de garde-robe, hein, mais aussi avec les chaussures, les sacs à main, les ceci, les cela, tous les accessoires finalement de mode. Après, je dirais beaucoup les vêtements. On a tendance, en tout cas les dames, à se dire, bon, je le garde si je grossis, au cas où. Et puis, je le garde si je maigris.
Si je maigris.
Voilà, c'est surtout le « si je maigris » hein, qui a tendance à garder, à rester. Seulement, elle nous explique dans son livre, et ce qui n'est absolument pas bête, c'est que bah, finalement, si on maigrit, on a plutôt tendance à vouloir racheter des vêtements plutôt que mettre des anciens. Donc du coup, hop, on bazarde. L'idée, c'est vraiment ça, en fait, de faire avec ce qu'on est actuellement. Et puis, s'il y a du changement, on sera suffisamment contente pour investir et dans ces cas-là, changer de garde-robe.
Pour ce qui est des chaussures, par exemple, c'est notre approche. J'ai une amie qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chaussures qui tourne sur peut-être 3 paires, en fait, sur la cinquantaine qu'elle possède. Et elle garde justement les chaussures.
Elle ouvre une boutique, en fait.
Voilà,
ah,
pour les garder, pour le plaisir de les garder neuves, en fait.
Il y en a qui, effectivement, là, ça ressemble plus à de la collection, en fait, finalement. Ouais. Un petit peu comme les sacs à main aussi. Ça arrive assez régulièrement d'avoir une bonne vingtaine de sacs à main, si ce n'est plus pour certaines personnes. Et puis, bah, finalement, de se retrouver à tourner avec les plus pratiques, parce que dans la vie quotidienne, comme les chaussures, enfin, marcher avec des talons de 20 cm, c'est pas forcément évident pour aller faire les courses ou ceci, cela. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est plus le plaisir là encore d'acheter. Donc là effectivement ce qui est important c'est de se dire ok, quand j'ai envie d'acheter cette fameuse paire de chaussures ou ce sac à main, est-ce que déjà ça va m'être utile et où est-ce que je vais le caler? Si on se rend compte que le placard est déjà plein, bon, on oublie et puis on essaye de passer à autre chose et à compléter par un autre accès à un autre désir, on va dire.
Ouais, pas évident, toujours évident, mais ouais.
Il faut essayer d'appliquer. Le tout, ce qu'elle nous préconise aussi dans ce bouquin, c'est de s'y mettre une bonne fois pour toutes. De pas étirer sur des mois, des années. Non. Je m'y mets. Là, actuellement, très bien, je sors toute cette pile de vêtements. Je les essaye. Je me dis, est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça, je vais le mettre? Objectivement, oui, non. Vu qu'il n'y a pas cette valeur, comme je vous disais, d'affect, hein, avec les vêtements en général, on a tendance à plus facilement s'en séparer. Par contre, après, il y a toutes ces notions aussi d'objets. Hein. Il y a des personnes qui sont très conservatrices et qui vont jusqu'à garder un morceau de papier où quelqu'un a griffonné quelque chose, mais comme c'était quelqu'un qui était important pour eux, ils le gardent et voilà. Donc, du coup, effectivement, tout ça, plus ça, mais ça encombre. Et donc, c'est cette idée, surtout, d'essayer de désencombrer ou de rassembler aussi tous les objets d'un même type dans un même endroit. Essayer d'avoir une bibliothèque pour les livres, une bibliothèque à CD, d'avoir une bibliothèque à DVD et pas avoir les DVD ceci, par là, là-bas, encore là-bas et puis dans la chambre. Et puis voilà, c'est d'éviter aussi de s'éparpiller. L'idée, c'est d'ordonner, de donner une certaine harmonie en fait à l'intérieur.
Une organisation, mais qu'est-ce qui en découle ensuite? Un soulagement peut-être,
exactement,
une fois ce tri fait?
Exactement, on se sent soulagé, apaisé aussi, et l'ordre que l'on voit autour de soi incite à avoir de l'ordre aussi en soi. On se sent donc beaucoup plus calme, beaucoup moins dérangé par cet aspect. Des fois on voit que c'est tout éparpillé, oh, il faudrait que je fasse le ménage, ça provoque de l'irritation, de la frustration.
Oui, et je pense aussi une fois que c'est tout rangé, on se dit bon maintenant ça c'est fait, je peux...
Exactement.
M'occuper de moi où maintenant je suis tranquille, je vais pouvoir passer à autre chose. Quoi.
Ce qui est fait n'est plus à faire. Et là, on rebondit sur notre ancienne chronique du mois dernier de la fameuse procrastination, où effectivement, ce qui est fait n'est plus à faire. Je me sens bien de l'avoir fait. Et limite même, moi, c'est ce que je préconise en tout cas, de s'auto-dicter une récompense à la suite de ce fameux rangement et de cet ordre que l'on met dans la maison.
Une paire de chaussures, par exemple.
J'étais sûre que tu allais dire ça.
C'est un cercle vicieux.
Ne l'écoutez pas.
Désolé.
Mais non, mais il faut bien de la tentation hein, quand même, sinon la vie n'est plus un jeu après.
On fait une deuxième pause musicale et on se retrouve tout de suite après pour la troisième partie. Slide through my mind. de retour sur Fréquence Mistral. Bon, en même temps, on n'est jamais parti. C'était juste une pause musicale avec The Sundays et la reprise de cette chanson Wild Horses qui est magnifique. Fréquence Mistral 107.3 également sur le www.fréquencemistral.com. Vous pourrez retrouver d'ailleurs, si vous prenez cette émission en cours, le podcast intégral d'ici quelques heures sur ce site, page de Gap. C'est l'instant bien-être avec Claire Elisabeth de Coaching You. On aborde le printemps. Dernière partie, on va parler de l'entourage, Claire-Elisabeth.
Exactement. Et c'est pas la moindre affaire, on va dire, parce que si se séparer des choses matérielles vous paraît déjà compliqué, alors du coup, dans les relations, c'est d'autant plus compliqué. Je m'explique. S'il est important de vivre dans un environnement qui est sain, qui nous apporte du sentiment d'harmonie, de sérénité, peut-être même aussi de pérennité, hein, il est aussi primordial d'apprendre à le calquer sur notre environnement relationnel. Pourquoi ? Parce que là aussi, on peut être susceptible de ressentir des effets indésirables, on va dire, des effets néfastes qui viennent polluer du coup notre état d'esprit et notre manière d'être dans notre vie de tous les jours. C'est pourquoi il est important de faire là aussi un certain tri sélectif, je dirais. Alors bien évidemment, si on repart sur l'idée du rangement avec la méthode KonMari, on peut dire que voilà, on va se demander si telle personne, passer du temps avec telle personne nous permet d'avoir du plaisir ou pas, ou si c'est plus un problème, et l'idée c'est de trier, mais certainement pas de jeter. Hein.
Tu les mets au recyclage?
Alors il n'y a pas encore la boîte clairement identifiée hein, pour ça.
Ah, dommage.
Mais c'est vrai qu'en tout cas il y a malgré tout des manières de faire, c'est-à-dire au moins de prendre conscience des personnes qui ont tendance à nous porter, qui nous rendent heureuses, qui nous font sourire. C'est contagieux tout ça, hein, qui nous donne cette envie d'aller de l'avant, de positiver. Et il y a ces personnes qui quelquefois, que ce soit leur état d'esprit ou juste occasionnel aussi, mais qui ont tendance peut-être un peu à nous plomber. C'est juste qu'en ce moment, on n'a pas besoin de ça. Et ben l'idée, c'est de réussir un petit peu à se distancer avec ces éléments négatifs desquels on peut vraiment se sentir comme une éponge, hein, finalement. Hein. C'est vraiment une question d'éponge. Donc pour ça, il y a trois étapes clés, on va dire, hein, pour la relation. Ça va être de « pour moi hein, ». Donc là, vous sortez votre petit bloc-notes, votre petit stylo, hein, vous allez travailler concrètement. Voilà le critérium de Vincent. Du coup, c'est vrai que ça va être d'abord de créer une sorte de tableau. Donc vous allez lister toutes les personnes que vous pouvez côtoyer dans votre vie quotidienne et les classer par catégorie. La famille, les amis, les connaissances, parce que voilà, ça reste aussi, il y a un certain décalage entre amis et connaissances, les collègues, les voisins, toutes les personnes que vous pouvez être amené à côtoyer au cours d'une journée ou en tout cas assez régulièrement. Ensuite, vous allez préciser la fréquence de ces fréquentations-là. Si c'est assez régulièrement, si c'est occasionnellement, comme les voisins, bon, on se croise, on se dit bonjour, hop, hop, hop. Si c'est la famille qu'on voit toutes les semaines, par exemple, tous les dimanches, ou si c'est les collègues, eh ben, qu'on voit tous les jours, hein, du lundi au vendredi, si ce n'est jusqu'au samedi. D'accord ? Donc ça va être un petit peu de qualifier, de préciser ces fréquences-là, et de qualifier pour chacune de ces personnes, ces quelques traits, on va dire, caractéristiques. Est-ce que cette personne est plutôt positive ? Elle est plutôt joyeuse ? Est-ce qu'elle est plutôt râleuse ? Est-ce qu'elle est plutôt négative ? Est-ce qu'elle a tendance en ce moment à avoir des problèmes ? Est-ce que ces problèmes me posent problème ? Est-ce que c'est une personne qui est assez angoissée ? Est-ce que c'est une personne qui ne fait que parler d'elle-même ? Ou qui ne parle jamais d'elle-même ? Voilà, c'est un petit peu cerner les traits, on va dire, les plus basiques. D'accord ? Et à partir de cette liste que vous allez faire, à partir de ce tableau, vous allez vous poser toute une série de questions, en fait, sur votre, d'abord, propre attitude. C'est-à-dire, est-ce que moi-même, je suis plutôt sociable ou est-ce que je suis plutôt solitaire ? Donc, par exemple, pour pouvoir cerner cette question, en cas de temps libre, qu'est-ce que je préfère faire ? Sortir boire un verre avec des amis ou est-ce que je préfère rester dans mon coin, bouquiner, écouter de la musique, etc. Quand ça ne va pas, est-ce que j'ai tendance à vouloir parler ou est-ce que j'ai tendance à me renfermer sur moi-même ? Si j'ai tendance à me renfermer sur moi-même, est-ce que cela suscite des réactions de la part de mon entourage ? Est-ce qu'ils sont interpellés ? Est-ce que du coup, ils vont venir me parler, me questionner, me dire « Mon Dieu, mais qu'est-ce qui t'arrive en ce moment ? T'es pas toi-même ? Est-ce que tu veux qu'on en parle ?» Ou est-ce que ça a tendance à passer inaperçu, puisque de toute façon, vous ne parlez jamais de vous ? D'accord ? Est-ce que vous avez, si vous avez tendance à vouloir parler quand ça ne va pas, est-ce que vous arrivez à trouver quelqu'un qui vous écoute, vers qui vous tournez, est-ce que cette personne répond à vos attentes, d'accord ? Et si oui, désigner qui, bien évidemment, par écrit. Hein. Tout ça, c'est par écrit, parce que dans le coaching, on aime bien ce qui est écrit, c'est concret. C'est pas abstrait comme la pensée. Et puis, ben, sinon, si vous ne trouvez pas de personne à qui parler, ou si vous trouvez quelqu'un à qui parler, mais que cette personne ne vous écoute pas, en quoi, finalement, vous n'avez pas le sentiment d'être entendu ? Qu'est-ce qui, pour vous, fait obstacle ? Quelles en sont aussi les conséquences, les répercussions, par exemple, hein, que vous subissez suite à ce manque d'entente de la part d'autrui ? Et puis, une dernière série de questions où là, vous allez davantage faire le point sur vos attentes relationnelles. En reprenant le tableau avec les personnes que vous avez listées au préalable, vous allez définir clairement ce que le terme « proche » ou « ami » signifie pour vous. Qu'est-ce que vous attendez d'un proche ? Qu'est-ce que vous attendez d'un ami ? Qu'est-ce que c'est votre définition ? Qu'est-ce que vous, vous pensez pouvoir apporter aux autres en tant que proche ou en tant qu'ami ? Et qu'est-ce que vous demandez aux autres de vous apporter en tant que proche ou en tant qu'ami ? Il y a aussi le nombre de personnes qui correspond réellement à cette définition par rapport à vos attentes qui est à définir, d'accord ? Très bien, dans toute cette liste de personnes que j'ai listées, combien il y a de personnes que je peux vraiment qualifier de proches ou d'amis ? Ça va vous permettre déjà de faire un tri. Le nombre de personnes aussi, dans le nombre de personnes que vous côtoyez, il faut voir le nombre de personnes que vous côtoyez quand tout va bien et à l'inverse quand ça va pas bien. D'accord ? Ça vous permet de voir qui est là sur les deux plans, qui est là que dans un plan.
Oui, non, ça m'interroge du coup quand tout va bien et quand tout va pas bien. C'est-à-dire qu'on a tendance à sélectionner les personnes en...
Alors, soit c'est soi-même, nous sélectionnons, hein, parce qu'on n'a pas le même rapport avec les gens, donc on ne va pas avoir cette facilité de se confier à certaines personnes qu'on va voir quand ça va très bien, parce qu'en général c'est elles qui ont tendance à aller plus mal, donc il faut plus les écouter. Et par contre, il y a certaines personnes, on sait qu'on peut être écouté, donc du coup on aura tendance à plus se confier à ces personnes là
d'accord.
Et ça encore, c'est de l'inconscient.
Toujours
sinon,
celui-là.
C'est pas marrant sinon. Ensuite, il va falloir faire un petit peu parler de ces personnes qu'on a considérées comme proches. Est-ce que du coup je les fréquente de ma propre initiative ? Est-ce que c'est moi qui vais toujours les solliciter ? Ou est-ce que du coup ces personnes aussi ont tendance à me solliciter ? C'est important aussi que dans une notion de proche ou d'amitié, il y a quand même un rapport de donnant-donnant, que ce soit les deux, hein, que ce soit pas exclusif. Exactement.
Mm-hmm.
Sinon, là encore, il y a une partie, voilà, il y a quelqu'un qui donne plus et là quelqu'un qui reçoit plus, et il n'y a pas cette notion d'équilibre, alors que dans toute relation on doit avoir une certaine notion d'équilibre.
Du coup, on rejoint la première partie, la maison vide et la maison désordonnée.
Exactement.
Il faut trouver un juste équilibre aussi.
Exactement. Ah, mais la vie, c'est une question d'équilibre de toute façon, en tout point de vue, entre la vie privée et la vie professionnelle, entre les loisirs et les obligations, entre les bonnes choses et les moins bonnes choses. Voilà, il y a des contraintes qu'on est obligé d'avoir, mais en même temps il faut savoir s'octroyer un petit peu de plaisir. Voilà, c'est tout est question d'équilibre. On est vraiment testé là-dessus, hein, quand on est sur Terre. Après, vous pouvez toujours continuer avec aussi quand vous côtoyez les personnes justement que vous sentez proches, si vous les fréquentez, si vous arrivez à parler de votre mal-être, est-ce que c'est facile pour vous de l'aborder ? Est-ce que la personne devine qu'il y a quelque chose qui ne va pas ? Ou est-ce qu'il faut que vous insistiez et encore ça ne fonctionne pas ? Donc là, ça vous permettra encore dans les personnes que vous qualifiez de proches ou d'amis, ça va vous permettre de faire encore plus le tri, mais sur le papier, hein, bien évidemment. Après, c'est à vous de calquer dans votre quotidien, on va dire, à accepter plus facilement d'aller vers les personnes qui ont tendance à vous porter et à mettre un tout petit peu de côté ou un petit peu plus de distance occasionnellement. Ça n'empêche pas les coups de téléphone, les SMS, un café de temps en temps, mais quand vous sentez que c'est le moment pour vous. Ça, c'est important de réussir à s'écouter et de pas se forcer à faire les choses. Si vous sentez on vous propose un café avec quelqu'un et que ça dure qu'une heure, mais que du coup vous y allez, ça vous pèse déjà moralement, il est évident qu'il y a un problème. C'est que c'est pas fait pour vous, cette personne ne vous correspond pas actuellement dans votre état d'esprit. Vous n'avez peut-être pas besoin soit de vous rajouter du malheur si vous êtes déjà dans du négatif, ou peut-être vous n'avez pas besoin qu'on entache votre bonheur aussi. Donc ça peut paraître égoïste, mais malgré tout, pensez à la qualité du moment que vous allez donner aussi à l'autre personne.
Il faut oser dire non des fois.
Exactement.
Il faut savoir dire non
parce que pour soi, ça va être important parce qu'on se correspond à ce moment-là. Et puis pour l'autre aussi, c'est aussi être vrai, être sincère. Et malgré tout, c'est donner après. Je préfère pas qu'on se voit maintenant, mais on se verra plus tard. Et quand on se verra plus tard, ça sera vraiment de qualité. Et là, ça fait la différence aussi. Vous serez vraiment disponible pour cette personne.
Tout à fait. Je suis d'accord.
L'ami idéal, c'est l'ami avec lequel on peut partager des moments de blues pour jouer un bon blues ensemble
ah,
et
oui.
des moments de joie,
de bonheur,
de rigolade.
Tout à fait. Mais ça repose beaucoup sur la confiance aussi. Hein. Donc, c'est vrai que ça dépend un petit peu le chemin de vie parcouru par chacun. C'est pour ça qu'il n'y a que vous qui puissiez faire votre propre tri et votre propre sélection.
À méditer.
Exactement. Parce que finalement, bah voilà, l'idée du printemps, c'est bien de se retrouver soi-même et de renaître. Hein. Donc, du coup, voilà, c'est vraiment cette idée de pouvoir rebondir et de s'écouter soi-même et d'apporter aux autres ce qu'on aimerait bien qu'on nous apporte aussi. On dit souvent, hein, c'est le proverbe ou le dicton, on dit souvent, finalement, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ben, moi, j'invite toujours à regarder les choses différemment. Apporte aux autres ce que tu aimerais qu'on t'apporte.
Ah oui.
Comme ça, c'est plus positif.
C'est vrai, oui.
Et parce que finalement, l'un et l'autre, ça se rejoint. Hein.
Oui, tu as raison.
La vie du côté positif.
Et j'avais une question, question piège, en fait.
Oh là là.
Le printemps, une renaissance. Est-ce que l'étymologie du mot printemps, tu la connais?
Alors non, j'ai pas pu le prendre.
Ça vient
de
me percuter.
Oui,
comme
mais
ça.
Effectivement, de toute façon, dans tout ce qui est symbolique, le printemps, c'est vrai que c'est les fleurs qui vont repousser, les feuilles des arbres qui reviennent. Ça va être les jours qui rallongent. C'est forcément du renouveau. La terre elle-même se renouvelle. Il va y avoir à nouveau l'herbe belle, verte qui repousse. On voit les montagnes qui sont vraiment plus dépourvues de feuilles. Comme en automne, c'est synonyme de mort. Le printemps, c'est synonyme de renaissance par rapport à l'environnement. Après, étymologiquement, non, je saurais pas répondre.
Il y a tant dedans, mais print.
Ouais.
Alors,
ouais.
Print.
Ben, je
rechercherai
là-dessus. Ouais, tout à
on
fait.
Cherchera.
Ça va faire partie du challenge aussi, hein, du moins. Voilà, ça va être de rechercher un peu l'étymologie.
Alors, vu que je suis un puits de science, je peux vous dire que le printemps s'écrivait au XIIIe siècle. Printemps, T-A-N-S, mot composé de Prince, P-R-I-N-S, et non pas Prince, le chanteur. Et temps. T-A-N-S, du latin primus, tempus, c'est le premier temps, c'est-à-dire la première saison. On trouve aussi l'expression...
Allez, voilà,
on a notre réponse.
Temps-sprint, T-E-N-S-P-R-I-N, le mot print désigne le début, le commencement, c'est le début de l'été.
D'accord.
En fait.
Ah ben voilà, tu es magnifique.
Il y en a là-dedans.
Merci.
Hein.
Merci.
Dit-il en lisant son
Internet.
Écran.
Tricheur.
Bref, il est déjà à l'heure de nous quitter, hein, quasiment 10 heures. Merci Claire-Elisabeth.
Ben merci à vous, c'était super.
On se retrouvera très prochainement pour un nouvel épisode.
Avec plaisir.
À bientôt.
À bientôt.
Salut tout le monde.
Ciao.
Bye.